Éric Pictet, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur du bureau de Paris de Musinic & Co. On va parler avec vous eh bien, de taux, de marché aussi à haut rendement hein, dans cette période-là. Alors c'est vrai que sur les taux, peut-être un petit focus pour commencer sur ce qui s'est passé hein, avec le krach chinois. Est-ce que, comment, de votre point de vue, ont évolué les marchés obligataires? Est-ce que ça a été normal? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières à souligner?
Bah, sur les marchés obligataires, bon, globalement, le ralentissement chinois globalement était relativement attendu. On ne peut pas attendre quand même qu'une société, un pays continue à croître à 7-8%, d'autant plus que les chiffres, on ne savait pas trop exactement. Donc le ralentissement chinois, bien sûr que ça a un impact sur les marchés obligataires, mais on a vu curieusement qu'il n'y a pas eu de flight to quality excessif et que finalement les taux à 5 ans et à 10 ans n'ont pratiquement pas bougé. Preuve aussi que les Chinois, sans doute, ont vendu de l'US pour acheter de leur propre monnaie.
Donc oui, parce que ce flight to quality, c'est vrai qu'on le lit systématiquement quand il y a ces périodes-là. Il n'y a pas eu vraiment lieu, il y a même eu des hausses de taux à certains endroits. Comment on analyse un peu ce qui se passe? C'est des questions de flux de...
Oui, en l'occurrence, c'est surtout des flux. Je crois qu'on a estimé à plusieurs, peut-être même 140 ou 150 milliards, les ventes d'USD. Il faut dire que les réserves de change chinoises sont très fortes. Mais ça a dû jouer énormément sur le fait que les marchés obligataires, les taux à 10 ans n'ont pas bougé.
Alors, on a eu aussi du côté des investisseurs, certains disant finalement la Chine, c'est un bon prétexte, parce que les marchés, notamment les marchés actions, étaient parti quand même très haut, donc il faut toujours à trouver à un moment donné une respiration et il y a voilà, ça a été la Chine.
Oui, alors ce qui est vrai quand même, c'est qu'il y a un ralentissement chinois. Il ne faut pas oublier quand même que la Chine a fait plus de 30% de la croissance mondiale de 2010 à 2014. Alors même si tout le monde s'y attendait un peu, ça a été peut-être un petit peu plus violent que prévu, et on a toujours ce double mouvement. On a une baisse d'activité dans les pays émergents. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est 28% de ses exportations, mais c'est 10% de son PIB, donc c'est quand même pas rien les pays émergents. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus faible. C'est 46% des exportations, mais ce n'est que 4% du PIB. Néanmoins, la Fed aujourd'hui, avec cette fameuse hausse de taux qu'on attend éventuellement le 17 septembre de 25 BP, qui ne réagit en général que sur son économie locale, doit prendre en compte les conséquences que ça peut avoir sur les pays émergents eux-mêmes, et donc, a posteriori, un espèce de ricochet vers les économies des pays développés.
Oui, on a vu d'ailleurs certains intervenants dire que ce que va faire la Fed risque d'entraîner les marchés émergents dans une tourmente, effectivement, puisqu'ils sont liés finalement à ce que fera la Fed.
Oui, alors il y a un peu ce mouvement-là. Il y a eu donc la baisse aussi des devises des pays émergents. Alors on se dit, si le scénario est très mauvais, baisse des matières premières, beaucoup de pays émergents seront impactés, bien sûr, l'Afrique du Sud, le Brésil, enfin, et d'autres pays, la Russie bien évidemment, même si ce n'est pas un pays émergent. Ensuite, vous avez à ce moment-là une guerre un peu des monnaies. Ça ne s'est pas vraiment passé, mais ça a commencé. Beaucoup, même si ça a beaucoup diminué, de dettes des pays émergents sont en dollars ou en devises fortes, et donc par conséquent, le coût augmente. Et donc à ce moment-là, vous avez un effet important sur les économies.
Alors si on parle des marchés de crédit, est-ce qu'il y a là aussi eu certaines choses significatives?
Alors, il y a deux choses. Il y a le rebaisse de l'énergie aux États-Unis, donc l'énergie aux États-Unis dans les marchés dit high yield, c'est 15% du secteur, donc ça a bien sûr eu un effet. En Europe, beaucoup moins, même si aujourd'hui l'énergie est montée à 6-7%. Pourquoi? Parce qu'il y a Gazprom, Petrobras indirectement et Lukoil qui sont rentrés dans l'indice et qui forment aujourd'hui 90% de l'énergie high yield européen. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là ont émis en euros. Donc bien sûr, c'est un effet. Vous avez une hausse des taux, des spreads aux États-Unis de 250 BP en gros sur un an, 120 BP depuis le début de l'année, et en Europe de 150 et 50 BP depuis le début de l'année.
Quand on regarde du côté des entreprises, dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a eu, les entreprises ont continué à se refinancer? Quelle a été un peu la tendance du côté des entreprises?
Alors quand on regarde les EBITDA ont un peu baissé aux États-Unis, même 40% sur un an glissant. Enfin si on sort l'énergie, parce que l'énergie a un gros taux, on tombe à moins 10 et un tout petit peu d'endettement en plus. Donc il y a une petite dégradation aux États-Unis. En Europe en revanche, la baisse de l'euro a favorisé les entreprises dites à haut rendement. Les BB par exemple, le levier sur la double B sur un an a baissé de 2,9 à 2, et sur un ou deux trimestres, les single B de 3,6 à 3,4. Donc les sociétés européennes ont bénéficié en fait de la croissance et également de la baisse de la devise.
Donc il y a toujours cet attrait, malgré peut-être un peu plus de volatilité, d'investisseurs par rapport à ce type d'investissement.
Oui, alors il y a eu des rachats qui n'étaient pas neutres, à la fois aux États-Unis et en Europe, mais les taux aujourd'hui, les rendements sont à plus de 7% aux États-Unis, pratiquement à 5% en Europe. Donc avec cette hausse de spread, il y a finalement, on price un taux de défaut de 5%. Globalement, il y aura peut-être 2,5%. Aux États-Unis, les taux de défaut ont baissé en Europe, avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est un petit peu augmenté. On est à 1,5 et on attend sur l'énergie 1,5 supplémentaire. Mais c'est largement en taux, en dessous des taux implicites que price les spreads.
Du côté des perspectives, donc il y a toujours de l'attrait, même malgré ce scénario de hausse des taux aux États-Unis, septembre, décembre. Ça reste un marché porteur d'ici jusqu'à la fin de l'année.
C'est un marché en tout cas qui donne un rendement réel, puisque l'inflation reste très basse. C'est d'ailleurs une des préoccupations de l'ensemble des banques centrales, qui alimentent toujours, plus ou moins, ça dépend lesquelles, en tout cas beaucoup les marchés. Donc la volatilité va augmenter, ça c'est une certitude, mais aujourd'hui le coussin du coupon commence à augmenter. Donc vous avez, si rien ne se passe autour, quelque chose comme 5% de rendement réel en Europe et 6 ou 7% aux États-Unis. Même s'il y a un petit peu de perte en capital éventuellement parce que les spreads peuvent augmenter éventuellement, ça reste quand même au niveau de la classe obligataire un très bon choix.
Pour conclure, quel type d'actif, comment peut évoluer l'allocation d'actifs justement dans cet univers-là pour vous?
C'est certain. Ce qui est certain, c'est que les entreprises restent bien gérées. Ça, c'est une certitude. Donc le risque, il est plutôt exogène que endogène. Les sociétés elles-mêmes, bien sûr qu'il faut faire son analyse de chaque société, les sociétés vont bien, mais il peut tout arriver. Un mouvement de la Fed, une décroissance en Chine, vous avez les matières premières qui continuent à baisser, des problèmes monétaires, ça va impacter bien sûr les entreprises, mais elles partent d'un niveau très haut, et pour l'instant, même si la croissance réduit, on a une croissance et on a une petite inflation. Ces deux éléments-là sont fondamentaux pour arriver au résultat que je citais tout à l'heure.
Voilà, donc on ne peut pas parler d'un havre de paix, mais il y a des opportunités pour les investisseurs qui prennent ce type de risque, clairement.
Exactement. Et pour un investisseur actif, je rajoute toujours que même dans l'énergie aux États-Unis, vous avez eu 15% de sociétés qui ont eu des performances positives depuis le début de l'année, en termes de performance marché. Donc il y a toujours des possibilités et des opportunités.
Eh bien, on suivra ça. Merci Eric Pictet d'avoir été avec nous.
Merci Didier.